Ceci était en direct. Philippe Van Parijs, directeur de la chaire ouverte, qui a servi, comme il le mentionnait, mais je ne sais pas si tout le monde l'a entendu.
En fait, ce que les gens ne savent pas, en fait, ceux qui ne le connaissent pas, c'est que ce n'était pas la vidéo, c'est comme ça qu'il parle.
Alors, la chaire ouverte a servi, je crois qu'on peut dire ça, comme un des modèles pour le Créum aussi, lors de sa création.
Et Philippe a été le conférencier inaugural du Créum.
Voilà, alors, ça aurait été bien de l'avoir. Peut-être on retrouve la vidéo d'ici la fin de notre séance, mais pour l'instant, je vous propose que vous poserez vos questions à nos deux conférenciers qui sont présents. Et si à un moment donné, on a la vidéo, alors on vous la joue. Alors, Martin.
Si vous me permettrez, j'ai parlé tout à l'heure, pour me prendre la parole, je voudrais intervenir, Daniel, sur la question de la neutralité. Moi, ça, je vais juste un peu parler de mon expérience de passer du monde universitaire à un monde engagé, un monde dans lequel, politiquement, mes propos le prenaient une toute autre... prenant en fait vraiment une concrétitude que je n'avais pas à l'université. À l'université, je pouvais parler et puis le lendemain matin ou la semaine suivante, reprendre ce que je disais et avoir une nouvelle, finalement, peut-être même dire le contraire de ce que je disais. Ça avait finalement peu d'impact et on pouvait se le permettre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on se permet à l'université, c'est de changer d'avis, c'est de reprendre des faits, retravailler nos... retravailler finalement nos théories, nos hypothèses, nos opinions à la lumière de nouveaux faits. Et je trouve que c'est une grande richesse qu'on a à l'université. Et moi, je situerais la neutralité plus de ce côté-là, c'est-à-dire, j'appellerais ça quelque chose comme une neutralité argumentative, c'est-à-dire de se permettre finalement de se repositionner à la lumière de nouveaux faits, de nouveaux arguments. C'est quelque chose qui est totalement différent de la neutralité politique. Et dans le monde où je travaille, la neutralité politique est complètement détestable. Ce sont des gens qu'on appelle dans le milieu du chemin qui nous empêchent d'avancer. C'est quelque chose comme un peu, oui, on va laisser à l'un et à l'autre tout. Finalement, c'est des gens assez opportunistes qui se permettent d'empêcher des choses d'avancer pour être capables de finalement de réaliser leur propre projet qui est celui d'avoir finalement un appui par rapport à quelque chose qui finalement survient un peu en arrière. Et ce que je veux dire par là, c'est que la neutralité politique n'est pas une neutralité. La neutralité politique est un effet d'opportunisme, en tout cas une façon d'avancer cachée et qui est finalement proprement partisane. Et moi, ce que j'encouragerais les intellectuels à faire, c'est de se prononcer, que ce soit comme Christian avec le poing levé à gauche ou à droite, mais réellement d'avoir le courage d'avoir ses opinions, de les avancer dans l'espace public, mais finalement, un peu proprement comme un intellectuel académicien universitaire peut le faire, c'est-à-dire d'avoir aussi le courage de changer ses opinions lorsque de nouveaux faits, lorsque de nouvelles choses nous demandent à changer. Donc, moi, je voyais la neutralité plus de ce côté-là, qui est une neutralité plutôt argumentative, qu'une neutralité politique, de dire, moi, finalement, je suis au-dessus de la mêlée. On n'est jamais au-dessus de la mêlée politiquement, on est toujours accroché quelque part, et si on se prétend avoir une neutralité politique, moi, ce que je vois dans mon milieu à moi, dans un milieu où la lutte politique est de tous les jours, c'est qu'on empêche les choses d'avancer pour un agenda qui finalement se révèle à un moment donné. Et ça revient un peu à se connecter à ce que Christian dit. C'est-à-dire, c'est de cette façon-là que je pense qu'on peut assainir les institutions, ouais. C'est de les laisser avancer, mais avec des positions beaucoup plus claires. Ouais.
Il y a une dimension très importante à ce que Martin a dit qui me touche profondément, fait résonner quelque chose là, que j'ai vu à de nombreuses reprises. La principale responsabilité qu'on a en tant qu'universitaire, je crois, c'est de se laisser constamment disponible, ouvert à des nouveaux arguments, à des nouveaux faits. On ne peut jamais penser en être arrivé à une conclusion ferme. Là, j'ai plus à réfléchir à ça parce que c'est plus possible que je change d'idée. Bon, il y a certaines questions, vraiment le racisme, des trucs comme ça peut-être, mais il y a des questions qui sont vraiment au cœur de. On doit on doit s'imposer une discipline d'ouverture aux nouveaux faits, aux nouveaux arguments, aux choses auxquelles on n'avait pas pensé. Le problème de l'intervention de la sphère publique, c'est qu'on devient identifié à des positions. Hein. On dit quelque chose à un moment donné X, et là, on nous le rappelle 5 ans plus tard. Et de dire, écoutez, là, ça c'était ma position en 2000, en 2008. Là, en 2012, j'ai lu d'autres livres et j'ai parlé à d'autres personnes, puis j'ai changé d'avis. Penser à ce pauvre, j'espère qu'il va perdre, là, mais Mitt Romney, dont on dit là, que c'est un flip-flopper parce qu'il change d'avis. Changer d'avis dans le monde académique, c'est pas une mauvaise chose. Là. C'est, au contraire, ça veut dire qu'on se... On se laisse travailler par les arguments et par les positions des autres, même sur des questions où on a l'impression vraiment d'en être arrivé à un point final. Mais changer d'avis dans la sphère publique, ça peut être plus compliqué. Et on peut se permettre, c'est quelque chose que, bon, pour parler d'un autre défunt politique, Michael Ignatieff, une des choses que moi je voyais chez Michael Ignatieff quand il est arrivé, pas au pouvoir, là, mais à la chefferie du Parti libéral, c'est qu'à différents moments, je me disais, mais ce gars-là pense qu'il est encore dans un séminaire de philo, là, il dit des choses pour voir, hein, que je vais le dire. Et je vais y penser en même temps. Je pense que tu as bien identifié une posture qu'il faut que l'intellectuel possède. On ne sait pas de la neutralité, c'est quelque chose comme une constante ouverture. Mais, alors là, de faire le lien entre cette constante ouverture et le monde de l'intervention publique qui a, par toutes sortes de pressions, tendance à nous coller à des positions beaucoup plus, d'abord, fixes et, deuxièmement, d'habitude, beaucoup plus simplistes que celles que nous avons vraiment, là, il y a vraiment une sorte de tension qui peut survenir, là, et que nous vivons tous, j'imagine, à un moment donné ou à un autre, quand nous faisons ce travail de va-et-vient.
Il y a Ruben en arrière.
C'est pour Daniel et Christian. Moi, j'ai eu l'impression, en vous entendant, que, en fait, quand vous parliez de Massal, vous parliez simplement d'éthique appliquée. Ouais. Et je me demandais dans quelle mesure ces concepts se recoupent d'éthique appliquée, par exemple, au sens de Singer. Est-ce que vous diriez que Peter Singer a des Massal? Moi, je trouve qu'il les a plutôt propres. Mais est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur la différence entre ces deux concepts, d'avoir des Massal et faire de l'éthique appliquée?
Je ne me reconnais pas dans ce que tu dis, que nous avons dit, mais parce que d'une part, je me suis surtout intéressé à des questions, disons, à la rigueur d'éthique publique. J'y vois moins des questions d'éthique appliquée au sens simplement de prendre des cas, disons, de figures qui reviennent régulièrement, mais où ce qui compte, c'est d'abord la réflexion, c'est-à-dire quand Singer s'intéresse à un cas d'éthique appliquée, la question de l'application devient relativement secondaire. C'est tout simplement qu'il parle d'un enjeu qui a une résonance concrète pour chacun d'entre nous. Je ne connais pas par ailleurs les engagements, c'est-à-dire de Singer, c'est-à-dire en dehors de ceux pour la cause animale, mais je crois que c'est quelqu'un qui précisément est dans ce souci de faire en sorte qu'il y ait la possibilité, disons, d'une réflexion qui soit donnée à un public autre que le public universitaire. Donc pour moi, première étape, ça serait de se soumettre à d'autres types d'expertise que celle de la philosophie morale ou de la philosophie politique, c'est-à-dire d'être dans une relation qui n'est pas simplement l'expertise par rapport à, par exemple, au sociologue ou au politologue, mais aux intuitions ou aux préjugés ou parfois, même très souvent, aux raisonnements tout à fait fondés mais non informés que l'on va retrouver lorsque on s'adresse à un plus large public. C'est-à-dire, pour moi, une des choses qui fait aussi ce qu'on appelle les mains sales, mais ça peut paraître étonnant, mais parce que je ne vois pas tellement... Enfin, je trouve que l'épithète sale est mal choisie, mais c'est de se retrouver dans des débats publics où personne n'a une formation au préalable, où on n'est pas du tout dans un rapport intellectuel, mais où les gens sont en mesure de compter ou de voir si quelque chose est cohérent. Donc ils vont insister, ils vont te montrer que ce que tu dis ne tient pas la route parce que il n'y a aucune raison de déduire B de A ou ce genre de choses. Et ou parce que ça heurte la manière dont ils ont conçu leur propre représentation ou leur propre investissement dans une cause sociale. À chaque fois que je me suis retrouvé, par exemple, devant des groupes assez engagés, très souvent, il y a eu des moments où la perspective de surplomb a heurté parce que j'ai émis un certain nombre de critiques, mais qui ne tenaient pas compte, justement, de leur contingence. Je ne pouvais pas les connaître, de leur contingence, de leur difficulté à réaliser tel ou tel programme. Par exemple, je ne sais pas, je suis intervenu très souvent dans le milieu syndical, et en gros, la manière dont on réagissait me prouvait que bon nombre des contingences que je n'avais pas, disons, enregistrées ou que je n'avais pas réussi à intégrer dans ma réflexion n'étaient pas simplement des obstacles à, disons, à la réalisation de projets que je proposais, n'étaient pas simplement des obstacles pratiques, mais véritablement des obstacles de type intellectuel. C'est-à-dire que j'avais mal compris le sens, mais dans la conceptualisation, d'une organisation comme la leur, par exemple, où j'avais mal compris le type de responsabilité collective qui était, disons, qui ressortait, que nous pouvions traduire de manière véritablement conceptuelle dans leur expérience particulière. Ça, je l'ai vécu beaucoup aussi avec les étudiants. C'est-à-dire que lorsque lorsque je me suis retrouvé dans des situations où j'essayais de discuter de principes de philosophie politique ou sur le bon gouvernement ou sur les mécanismes propres à leurs organisations, très souvent, c'est leur expérience qui m'a fait comprendre que ma conceptualisation, ma représentation n'était pas adéquate. Alors, je dirais que le lien, les mains sales, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'accepter que, d'une certaine manière, certaines contingences ne soient pas simplement des obstacles pratiques, mais soient aussi des paramètres permettant d'avoir une source d'information au sujet de paramètres permettant d'avoir une meilleure compréhension des enjeux en présence. C'est comme ça, d'ailleurs, que je vois aussi l'histoire des idées. Mais ça serait un autre débat.
Oui, je dirais deux choses très rapidement. Je pense qu'il y a des différences entre éthique appliquée, Ruben, et le genre de choses que moi je considère comme étant des occasions où je me suis sali les mains, ou peut-être retroussé les manches. Peut-être que c'est mieux de retrousser les manches. Retrousser les manches pour. Premièrement, je reprendrai une anecdote qui illustre quelque chose que Christian vient de dire, qui moi m'a vraiment été très utile quand j'ai, pendant quelques années, j'ai été le président du comité d'éthique de la santé publique du Québec. Et la première mission qui nous a été confiée pendant ma présidence, c'était d'évaluer un plan. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais tous les 5 ou 10 ans, il y a une énorme étude qui est produite par des épidémiologues et des gens de la santé publique. Ça s'appelle « Portrait de l'état de santé de la population québécoise ». Alors, on a à peu près 43 000 indicateurs. Et là, à partir de ces indicateurs, on construit un portrait de santé de la population québécoise. Et donc, notre travail consistait essentiellement à recevoir ces 43 000 indicateurs. Et quand je dis 43 000, les gens qui me connaissent savent que j'ai tendance à faire un peu de la surenchère verbale. Là. Mais on n'était pas loin de 43 000. C'était des listes d'indicateurs. Et on ne savait pas trop quoi faire de cela. On devait en faire en plus une évaluation éthique. Alors, sur des indicateurs, nombre de légumes, consommation de trucs, absolument. Bon. Alors, évidemment, il y a des indicateurs qui cherchent à voir un peu le niveau d'activité physique de la population. Alors, je ne vais pas préciser, mon comité, c'est un comité paritaire. C'est un comité où il y avait 4, entre guillemets, experts. Donc, moi, l'éthicien. Trois autres personnes qui venaient du domaine de la santé publique, et il y avait 4 citoyens. Les citoyens sont d'habitude des gens qui sont choisis des organisations communautaires. Et il y avait un gars pour qui j'ai une affection, un gars il avait une éducation, probablement fini son secondaire et encore, mais c'est un type qui était d'une intelligence folle. Et je me rappelle à un moment donné quand on se demandait un peu comment prendre à bras le corps notre mandat, qui était d'évaluer éthiquement cet ensemble, ce fatras d'indicateurs, il dit regarde. Pour l'activité physique, on prend là, le pourcentage de gens qui sont inscrits dans des gyms. C'est un gars qui vient d'un village dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui passait probablement sa vie à couper des arbres ou à faire des trucs absolument comme il arrive. Et il y a eu une remarque qui a fait en quelque sorte décoller notre truc, qui consistait à dire Moi, des gyms dans mon village, je n'avais pas ben, mais quand je rentrais à la maison, j'étais fatigué pareil. Ce qui était pour moi une des grandes interventions de. Ça nous a ouvert les yeux sur l'idée que ce qu'on devait faire un peu pour regarder ces indicateurs, c'était un peu d'identifier les angles morts, de voir un peu dans ce fatras d'indicateurs, est-ce qu'il n'y a pas des biais qui se sont introduits. Puis tout ça est parti du gars qui nous a dit, moi dans mon village, des gyms, il n'y en a pas ben, mais quand je rentre à la maison, je suis fatigué pareil. Sur ma tombe, c'est toi, ça va être. L'autre chose que je dirais, donner un autre exemple. quand je fais de l'éthique appliquée, si j'écris un article sur l'euthanasie, ben, je vais dire essentiellement ce que je pense qu'on devrait faire hein, sur le statut de l'euthanasie, étant donné mes présupposés théoriques. Une autre manière de se salir un peu les mains, c'est de se rendre compte que très souvent, le genre de rapport qui va servir à animer le débat public seront des rapports qu'on n'écrira pas tout seul. Ce sont des choses qui sont faites en équipe. Et écrire en équipe, écrire en équipe en vue de faire avancer le débat public, ce sont deux choses complètement différentes. Je vous donnais un exemple. Le président, je pense que ça ne le gênerait pas que je le dise. Certains d'entre vous le connaissez, Udo Schuklenk, qui est prof à Queens, au département de philo de Queens. Se caractérisait lui-même comme étant, de ses propres mots encore une fois, un utilitariste stalinien. Hein, donc un étudiant de Peter Singer pour qui un utilitarisme vraiment primaire, direct, pas de fioriture, utilitarisme indirect, utilitarisme de la règle. L'utilitarisme direct est la meilleure philosophie morale qui soit. Cela dit, il comprenait très bien que, premièrement, dans son comité dont j'étais, il n'y avait pas que des utilitaristes directs, et d'ailleurs sa position théorique était probablement minoritaire plutôt que majoritaire, et que deuxièmement, on avait un travail à faire pour faire avancer le débat, et que si on avait commencé à dire que non seulement il fallait écouter la parole des gens autonomes qui, dans une souffrance extrême, demandent qu'on les aide à mourir, mais également qu'on porte des jugements sur des bébés très malades qui ne peuvent pas porter... Que ça n'irait nulle part. Hein. Et donc, il s'est très bien rendu compte qu'il fallait, et chacun dans une peut-être moindre mesure, il a fallu qu'on se rende compte du fait qu'il fallait qu'on en arrive à un document qui soit, en quelque sorte, quelque part entre le consensus et le compromis. Hein. Le consensus et le compromis. Le pari étant qu'en réussissant à faire un peu des ponts entre nos différents théoriques, on arriverait à un document que notre petit groupe serait comme un microcosme de la société plus vaste, et qu'en faisant un document qui fasse des ponts entre nos différents théoriques, ben ce serait peut-être également un document qui permettrait de faire des ponts entre les différents théoriques de la population plus large. Mais en tout cas, le travail qu'on fait lorsqu'on écrit un texte d'éthique appliquée et qu'on met son nom dessus, Ruven Ogien, Daniel Weinstock, et le travail qu'on fait lorsque on se livre à ce genre d'exercice qui a premièrement pour vue véritablement... Premièrement, il y a cette dimension-là, et deuxièmement, il y a cette autre dimension qui me semble terriblement importante, et je pense que ça rejoint quelque chose que Christian a dit sur prendre les institutions au sérieux, c'est que quand tu écris un texte de philo, ben, tu écris un texte de philo un peu... on n'a pas besoin de te dire compte de là où en est la société dans laquelle on est. Hein. Premièrement, parce qu'on écrit pour des revues qui sont peut-être des revues qui vont être publiées dans d'autres pays, etc. Il y a une sorte de déracinement socio-historique hein, dans les écrits qu'on fait. Or, pour qu'un rapport comme celui-là soit utile, il faut qu'il aille de A à B, où A est non pas des présupposés théoriques très abstraits, mais A est l'état du droit, l'état de l'opinion, l'état des institutions dans la société où on est. Donc, faire un travail, disons, de cet ordre-là exige... de prendre comme étant paramétrique, disons, comme prendre comme étant des paramètres des données légales, sociologiques de la société dans laquelle on est. Donc, il me semble qu'il y a quand même des différences.
Alors, Renaud.
Merci. Je voudrais juste faire deux ou trois remarques. D'abord, je serais un peu moins sévère sur le modèle de l'expertise. Je suis d'accord que ça n'est pas la solution du problème dont nous débattons. L'expertise, elle peut être piégée parce que les décisions sont déjà prises, etc. Mais malgré tout, dans l'appel aux philosophes qui est fait par les politiques sur le mode de l'expertise, il y a la reconnaissance d'une légitimité et d'une fonction de conseil qui n'est pas négligeable. En revanche, ce qui, à mon avis, fait que c'est sans doute pas la bonne voie pour se salir les mains, c'est que de toute façon, ce que comme experts nous pouvons dire reste toujours très loin de la prise de décision.
Ouais.
C'est-à-dire que la prise de décision des politiques qui peuvent nous consulter sur le mode de consultation, soit dans une commission, soit directement en consultation par un ministre ou par un cabinet ministériel, etc. De toute façon, nous donnons notre avis et la décision obéit ensuite à une logique sur laquelle nous ne pouvons absolument rien. C'est pas tellement à mon avis que la décision est prise avant, c'est qu'elle combine des éléments qui n'ont rien à voir avec le type d'argumentation ou d'argumentaire que nous pouvons faire valoir pour défendre telle ou telle position. Donc je crois que sur le mode de l'expertise, ça nous fait plaisir d'être consultés, mais qu'en fait, d'un côté, nous risquons peu de nous salir les mains, donc c'est pas trop grave. De l'autre côté, ça ne nous fait pas vraiment sortir de nous-mêmes et de notre pratique habituelle de la philosophie, parce que la décision politique reste très loin. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on rencontre une difficulté aussi. Alors, je ne sais pas ici, dans le cas de Philippe, en Paris, si c'est une difficulté que vous rencontrez, mais nous, nous rencontrons une difficulté en France avec nos institutions. Parce que, comment dire, dans l'évaluation des trajectoires, dans l'évaluation des carrières, dans l'évaluation des trajectoires, notamment des doctorants, des post-doctorants, il est clair que si nous les incitons à se salir les mains, c'est-à-dire à travailler sur des objets, nous leur faisons, je parle de mes institutions, nous leur faisons courir des risques beaucoup plus grands que s'ils travaillent sur Spinoza, sur la politique de Spinoza ou Malebranche. Donc il y a un problème d'éthique professionnelle qui est sérieux, et je pense qu'au fond, nos institutions souhaitent toujours que, dans le meilleur des cas, la philosophie morale ou la philosophie politique reste discipline qui travaille sur les principes, et que nous pouvons être parfaitement respectés comme philosophes, éthiciens ou philosophes politiques, sans jamais avoir dépassé la sphère de la position des principes, une réponse à des questions de principes, ce que la quasi-totalité de mes collègues conçoivent être la tâche de la philosophie politique ou la tâche de l'éthique. Et donc les questions que vous posez là sont des questions qui, moi, me passionnent, mais qui sont, je pense, encore pour beaucoup de philosophes dans le monde, en tout cas en France, des questions de marginaux.
Oui.
Voilà. Donc j'attire l'attention là-dessus, qui pour nous est très important. Nous avons un combat, nous, à mener. Je pense que c'est un peu la question de Révan, d'ailleurs, de savoir si dans le meilleur des cas, c'est pas sur le mode de l'éthique appliquée ou sur le mode de la philosophie politique appliquée que nous pouvons sortir de nos questions de principe et commencer à rejoindre des objets. Parce que sinon, comment dire, la discipline, l'éthique, la philosophie politique, en France, s'auto-censure très très fortement quant aux tentatives, alors dans les deux métaphores, soit de se salir les mains, soit de se retrousser les manches, parce que dans une trajectoire, disons que ce n'est pas ce qui est le plus efficace, il faut déjà être bien vieux, effectivement, pour pouvoir se permettre de faire ce que nous faisons. Et puis ma dernière remarque, c'est qu'effectivement, nous pouvons travailler sur des objets. Ça pose deux types de problèmes, à mon avis, dont l'un ne peut être que mentionné ici, mais c'est un problème très complexe, qui est de savoir jusqu'où, comme philosophe, nous pouvons aller dans la direction des domaines d'objectivité. C'est quand même extrêmement complexe. D'où nous viennent les données? C'est pas nous qui produisons les données. À qui empruntons-nous les données sur lesquelles nous travaillons? Et quelle est la méthodologie de notre travail quand nous travaillons sur des objets, quand nous nous salissons les mains, dans le meilleur des cas, si vous voulez, simplement en se retroussant les manches, en sortant des questions de principe? Et puis ça pose un problème, j'ai déjà fait raison tout à l'heure, il faut protéger nos étudiants et nos doctorants, comme nous les, et nos post-doctorants, quand nous les incitons à faire cela, parce que ce sont des véritables engagements qui impliquent des choix pas seulement normatifs mais politiques, et qu'à ce moment-là, effectivement, il est de la responsabilité des plus anciens de se soucier de la trajectoire de ceux qui font ce que nous pouvons faire à l'âge que nous avons.
Je vous laisse réagir.
Très bref, je ne reviendrai pas sur la question de l'expertise. Là, effectivement, j'ai été un peu rapide. Non, je pense qu'au contraire, il y a tout un travail qui est possible de faire. Je ne sais pas si ça sera jamais le mien. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai rencontré, j'espère que ce n'est pas enregistré, le président... C'est enregistré, d'accord, donc je... Enfin, de toute façon, ça n'a aucune valeur, mais j'ai rencontré récemment le président du Conseil supérieur de l'éducation qui me disait, est-ce que le Conseil supérieur de l'éducation, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Donc j'ai dit oui, parce que dès qu'il y a le mot devoir, j'accours avec la langue pendante, mais ça m'effraie. C'est-à-dire, il y a un type d'engagement propre à des institutions comme celle-ci qui me semble effrayant, surtout lorsque tu dois non pas simplement fournir par exemple une expertise, c'est-à-dire qui te dégage de l'institution, mais lorsque tu fais corps avec l'institution. C'est-à-dire lorsque tu es véritablement membre de l'institution en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose que je vois, par exemple, je ne sais pas, moi, je me suis engagé sur le conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, et jusqu'à maintenant, la ligne est très claire entre mes interventions personnelles et les interventions que je vais faire au sein de la Ligue. Mais d'emblée, c'est exactement le genre de situation que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il arrive que nous soyons contraints tout simplement par le fait que nous sommes dans une organisation et que nous ne pouvons pas prétendre parler en notre nom sans que l'organisation soit présente comme institution. Alors, j'en reviens à la question du devoir de réserve, c'est la même chose au sujet de l'Université de Montréal, c'est-à-dire lorsque j'interviens sur la place publique, alors une des questions que m'a souvent adressée, c'est est-ce que tu devrais dire philosophe ou professeur de philosophie à l'Université de Montréal ? Et je pense que c'est une bonne question. C'est-à-dire, je pense que c'est une bonne question, parce que de dire professeur de philosophie à l'Université de Montréal pourrait signifier que l'institution donne une certaine caution, alors que c'est mon interprétation de l'institution qui donne, disons, une certaine caution. Mais d'un autre côté, j'ai toujours eu un sentiment que j'usurpais quelque chose lorsque je ne disais pas professeur de philosophie à l'Université de Montréal, parce que c'est parce que je suis professeur de philosophie à l'Université de Montréal qu'il m'est possible d'intervenir sur la place publique. Sans quoi je n'aurais pas, disons, l'ensemble des moyens mis à ma disposition. Et là, je ne parle pas simplement d'un poste ou d'un salaire, mais de la recherche, véritablement, et de la collégialité qui nourrit, disons, le type d'intervention que je peux faire. Donc voilà, c'était simplement...
Je voudrais saisir, il y a plein de choses dans ce que dans les remarques qu'Alain Renaud a dit. Je voudrais en saisir une au vol. Ce serait intéressant que, peut-être de proposer à un sociologue plutôt qu'à un philosophe de faire une recherche qui prendrait 3 ou 4 pays et qui regarderait un peu, disons, entre guillemets, où ça bloque. Bon, j'étais un peu, je voulais faire un peu des effets dramatiques avec ma petite histoire de. Mais il me semble qu'il y a des très grandes différences entre. Ne prenons que le Canada et la France. Bon, je prends très au sérieux l'idée que on n'a pas nécessairement trouvé les meilleurs moyens de se rendre, pas utile au sens là, utile, mais à faire de sorte que notre recherche ne soit pas confinée des trucs qui ne sont lus que par 37 personnes, ou confinée dans des sujets sur lesquels les gens ne veulent pas nécessairement travailler, mais ou sur lesquels ils sont obligés de travailler pour des... Et il me semble que ce que tu viens de me dire me fait penser qu'entre le Canada, ou l'Amérique du Nord de manière générale, et la France, ça bloque peut-être à des moments différents. Tu vois, quand je vais dans une librairie, bon, les livres vont dans les librairies populaires du style Chapters. Olivieri est une institution que nous devons chérir parce que c'est une vraie librairie, mais une librairie qui essaye d'unir à la fois une mission de librairie populaire et une librairie également qui vend des... Mais aller à Chapters ou chez Renaud Bray, il y a très peu de livres universitaires. Hein. Pour acheter un livre d'Oxford University Press, il faut aller maintenant en ligne essentiellement et le commander sur Amazon. Alors que moi, quand je suis à Paris et que je vais dans une librairie, je vois tes bouquins. Je vois tes bouquins. Et je suis sûr que le fait que tes bouquins se vendent dans des librairies et pas uniquement sur le site d'Oxford University Press ou des pufs a un impact sur la manière que tu les écris. Hein? Tu les écris de manière à ce qu'ils soient potentiellement lus par des gens qui ne sont pas que tes collègues. Ici, ce n'est pas le cas. En revanche, moi, je n'ai aucune hésitation à faire travailler mes étudiants sur des objets, disons, de pas Malebranche, qui vont un peu plus proche du terrain que Malebranche et Spinoza, sans vouloir médire ni l'un ni l'autre de ces grands penseurs. Hein? Ouais. Et là, ça bloque pas. C'est-à-dire que, bon, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal il y a 20 ans, de dire que j'allais faire travailler un étudiant, une étudiante sur un truc ça allait peut-être un peu faire froncer les sourcils de certains de mes collègues, maintenant c'est fini. Il n'y a plus aucun problème. Là, je regarde les thèses. J'ai plusieurs thèses qui sont déposées là ces jours-ci par des étudiants. Il y en a qui portent sur la situation eu égard à la justice des proches aidants, des gens qui sont. C'est extrêmement appliqué, ça se fait dans un département de philo, et je suis très heureux que ça se fasse. Mais par contre, lorsque cette doctorante, si elle décide de publier ses articles dans le registre qui est celui de l'université de l'Académie nord-américaine, c'est là qu'elle va trouver des blocages. Alors c'est intéressant de voir, je ne sais pas, prendre 3-4 pays, peut-être la Belgique, et de voir un peu comment, où sont les goulots, hein, où sont les trucs qui font que, à un moment donné ou à un autre, on se retrouve à... subir une pression institutionnelle qui est terrible lorsqu'on est jeune, peut-être un peu moins quand on est vieux, on se rapproche d'un moment où on pourrait commencer à dire qu'on est vieux, les pressions institutionnelles qui nous font faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et de pas faire de sorte que notre recherche porte sur les objets sur lesquels on veut qu'elle porte et soit diffusée d'une manière qui, sans être... on ne va pas faire des BD de... qu'elle puisse être en quelque sorte portée par des véhicules un peu plus efficaces que ceux que l'on a.
On ajoute tout ça.
Oui, Juste une précision, une chose qui me semble peut-être flagrante en France, c'est qu'on voit moins ici, c'est à quelques exceptions près, on a parfois l'impression qu'il y a une séparation des rôles. C'est-à-dire, il va y avoir, par exemple, des philosophes qui vont intervenir sur des questions morales ou politiques, sur la place publique, mais qui vont devenir spécialistes de ce type d'intervention, de sorte qu'ils n'ont plus de statut, disons, de recherche en tant que tel. C'est-à-dire, il n'y a plus de... inversement, c'est comme s'il y avait une séparation telle des rôles qu'effectivement, vous avez quelques individus, bon, vous, Ruven ou d'autres, qui vont à la fois participer au débat public, mais toujours sur la base d'une recherche fondamentale, d'une recherche qui est proprement universitaire. Alors qu'en France, quand on regarde par exemple un magazine comme, je ne sais pas moi, le magazine Philosophie, on regarde ses pages et on a l'impression que finalement la philosophie en France, ce ne sont pas des philosophes professionnels, c'est-à-dire ce sont des essayistes, mais non pas des philosophes professionnels, c'est-à-dire qui vont investir leur recherche dans un travail critique dans la communauté universitaire. Je pense par contre que le gain d'une telle approche, c'est de créer une espèce de terrain fertile à ce que des interventions de la part d'universitaires dans le débat public soient possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile dans un contexte comme le nôtre, précisément parce que... dans une certaine mesure, je pense qu'au Québec, nous avons peur du débat intellectuel. Nous avons peur qu'à chaque fois, il l'effraie parce qu'il serait trop complexe, ou parce que, soi-disant, il serait en dehors des intérêts. Et à cet égard, nous avons là aussi perdu bon nombre des institutions qui permettaient des débats intellectuels, comme par exemple, nous n'avons plus l'équivalent de Radio France. Une télévision, par exemple, comme RDI, ne fait à peu près plus de travail d'investigation politique, de réflexion en tant que telle. Et là, ce qui va rester, c'est des émissions sur du genre Canal Savoir. Vous allez avoir un tableau noir, il faut que ça soit le plus sombre possible. Et vous avez trois personnes qui blafardent, qui discutent de la post-métaphysique spinoziste, par exemple.
Marc-Antoine.
Oui, alors je voulais revenir un peu sur la question de Ruven, parce que sur moins la différence entre éthique appliquée et avoir les mains sales, mais plutôt sur qu'est-ce que c'est qu'avoir les mains sales. Et j'ai eu l'impression que vous aviez les mains assez blanches encore, tout simplement parce que ce dont il a été question, c'était plutôt de venir prendre position dans le débat public, mais à partir de ses positions intellectuelles antérieures, et comme si les positions intellectuelles antérieures n'avaient pas été véritablement affectées par le fait d'intervenir sur la scène publique, et notamment sur la scène politique. Moi, ce qui m'apparaît plutôt, c'est qu'avoir les mains sales, bon, classiquement, c'est faire un certain nombre de compromis, disons, renoncer à un certain nombre de convictions qu'on avait, et pour le dire dans les termes de Weber, hein, c'est essayer de trouver un équilibre entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. Alors, je me demandais si vous aviez fait vous-même un certain nombre de renoncements à vos convictions antérieures au contact du terrain. Si, oui, lesquelles est-ce que c'est ça, avoir justement en partie les mains sales? Tu parlais de la corruption, par exemple, mais je crois qu'il me semble que justement avoir les mains sales quand on s'occupe même des dossiers de corruption, c'est à un moment donné être tolérant à l'égard d'une certaine forme de corruption pour pouvoir agir mieux. Est-ce que, par exemple, ça, c'est une manière acceptable d'avoir les mains sales? Et alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles pour avoir les mains sales tout en restant un universitaire tout de même un peu propre, par exemple, comprendre comme quelqu'un comme Richard Bellamy que faire de la philosophie politique, comme faire de la politique, c'est en permanence faire des compromis. Compromis de concept, compromis d'intérêt, et au fond, le modèle, ce serait peut-être ce qu'il appelle avoir dirty hands in white gloves.
Voilà. Pour ma part, j'ai l'impression, pour revenir au genre d'exercice auquel je me suis livré à plusieurs reprises, c'est-à-dire d'écrire des travaux destinés à orienter le décideur dans le contexte de commission, mais à plusieurs. Je peux identifier des moments où j'ai fait des compromis, c'est-à-dire où si ça avait été moi qui l'avais écrit tout seul, j'aurais dit des choses différentes. C'était pas énorme, hein, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, et peut-être qu'on devrait le mettre sur la table, c'est l'engagement proprement politique. Hein. J'ai déjà considéré très sérieusement de faire de la politique active. Si j'avais accepté l'invitation qui m'avait été mise de l'avant la dernière fois pour en faire, il est fort probable que je ne serais pas là aujourd'hui, mais que je serais à Ottawa en train de m'engueuler avec... avec les gens du bord opposé, dans le parti qui est actuellement à l'opposition officielle. Et ce qui m'a retenu, je dois vous le dire, c'est quand je scrute mon... Bon, il y a du poche et du pôle, où il y a du... C'est bon, j'aime bien mon boulot, et il y a toujours... Mais ce qui m'a retenu, c'est l'idée que les compromis seraient trop grands. Les compromis seraient trop grands, et que je ne pourrais pas, ayant passé 20 ans maintenant de ma vie à être, à part ces petites exceptions, de quoi on parle là, quand je fais des compromis dans des rapports, c'est des trucs, des nuances, hein, c'est des nuances. Alors que là, bon, tu vois, par exemple, sur la question qui m'a occupé pendant 2 ans, le parti politique dont je parle, les néo-démocrates, pour ne pas les nommer, ont décidé que sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté, ils ne prendraient pas position. Et de ne pas prendre position dans ce débat-là, c'est plus ou moins, disons, dire que le statu quo doit continuer. Et quand tu es dans un parti politique, tu ne peux pas te lever et dire « je suis pas d'accord avec mon parti hein. ». Il y a la discipline de parti qui a sa fonction dans une démocratie, hein, je l'accepte. Moi, je suis toujours un peu, j'ai envie de parler à des gens comme bon, des anciens universitaires, Erwin Kotler, notre ancien collègue Stéphane Dion, et de voir comment ils vivent avec cela. Il y a quelques années, j'avais organisé un colloque pour les sociétés savantes, où on m'avait demandé d'inviter des gens qui avaient fait de la politique active pour parler un peu de la démain sale. Et là, de vraiment inviter des gens qui avaient fait de la politique active, des gens qui avaient été des élus ou des gens qui étaient dans les cabinets. Et il y a Bill Galston, donc un philosophe, hein, William Galston, qui a dit quelque chose qui a été pendant quelques années sous-ministre des Affaires intérieures dans le cabinet Clinton, dans le premier cabinet Clinton, qui avait dit « En rentrant, il faut que tu te traces une ligne Maginot morale. » Hein, c'est-à-dire, au-delà de ça, je n'irai pas. Et d'être prêt à dire non, je partirai.
L'imagino, c'est pas le meilleur.
Une frontière, une frontière en deçà de laquelle je ne descendrai pas. Et en fait, lui, il l'a très vite, parce qu'il n'a pas fait, il a quitté avant de faire un mandat complet. Et je me demande comment je vivrai. Après 20 ans d'avoir une liberté intellectuelle totale, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est ça le. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, de me retrouver dans une situation où ton devoir exige que tu ne dises pas tout ce que tu veux. Là, c'est difficile.
J'aimerais pouvoir dire que je n'ai jamais fait de compromis, mais ce serait, d'une part, ce serait sot, d'autre part, ce serait faux. Je pense que il y a deux niveaux de, pour comprendre la question. Il y a, disons, un niveau, des engagements personnels, comme Daniel s'y référait, et il y a aussi proprement le travail, disons, de la philosophie en tant que telle. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet du rapport aux contingences. C'est-à-dire lorsque un certain nombre de contingences vont faire en sorte que tu dois te poser la question, est-ce que c'est tout simplement parce que là, c'est accidentel, que mon modèle ne fonctionne pas, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans le modèle qui n'arrive pas à interpréter, que ce soit sur le plan normatif ou descriptif, le phénomène qui m'intéresse en tant que tel. Et là, le compromis vient du fait précisément de toujours rechercher un certain équilibre entre est-ce que je suis en train de faire en sorte que, est-ce que l'ouverture de mon modèle est pour des raisons d'ordre épistémologique, c'est-à-dire une question de falsifiabilité, ou est-ce que c'est tout simplement parce que je laisse une possibilité ou j'accepte de faire un compromis. La plupart du temps, à ce niveau d'analyse, c'est pour des raisons de falsifiabilité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, disons, le compromis, en réalité, n'en est pas un. C'est un perfectionnement du modèle ou de la représentation conceptuelle d'un enjeu. Il arrive que ce soit tout simplement l'angle d'analyse. C'est-à-dire que, en gros, ton analyse résiste à, disons, contradictions sur le terrain, si j'ose dire, mais il arrive que des rencontres avec des gens qui sont, par exemple, vous allez trouver, enfin, tout le monde sait que je suis obsédé par la question du printemps étudiant, mais il arrive que des rencontres fassent en sorte que l'angle d'analyse, c'est-à-dire, devienne, se trouve complètement modifié. C'est-à-dire qu'en fait, dans une certaine perspective, Disons, je pouvais avoir raison, mais c'est tout simplement que je ne regardais pas le problème par la bonne lorgnette. Et là, c'est, il arrive qu'il y ait des moments de choc où quelqu'un dise « Non, 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 t'as rien compris, mais tu sais pourquoi ? Tiens, on va changer de lunettes. » C'est-à-dire, tout simplement, on va le regarder à partir, disons, d'une expérience, mais cette expérience n'est pas purement, simplement le fait de hasard, etc. Elle est ce qui te permet d'avoir une autre attitude ou un autre point de vue. Parce que, précisément, le point de vue de nulle part, c'est quelque chose qui n'existe pas, dans une certaine mesure, par définition. Ensuite, ça se vérifie dans la participation, comme je le disais tout à l'heure, à des instances. Et là, je dirais que, je ne sais pas moi, une carrière universitaire, à partir du moment où on se soucie de l'institution, est une série de compromis au sens où tu l'entends. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments où on se dit, au-delà de ça, il est hors de question que j'y aille. Et là, on te regarde et on te dit « Ah donc, tu vas faire un rapport minoritaire quand tu fais partie d'un comité. » Là, tu y songes deux fois, tu te dis « C'est pas simplement la question du travail supplémentaire que ça représente. C'est tout simplement, est-ce que tu dis, est-ce que je suis, est-ce que finalement, je suis à ce point en désaccord que je serais prêt à m'engager dans un rapport qui serait entièrement distinct de celui de mes collègues. » Et c'est là où se pose véritablement la question du compromis, si tu veux, dans une participation aux institutions. Mais dans les deux cas, je dirais que c'est dans une certaine mesure un principe de falsifiabilité. C'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle n'importe quelle approche philosophique ne se présente jamais de manière dogmatique et doit concevoir, doit, en son sein, avoir une possibilité, disons, de réfutation. Et cette réfutation, parfois, elle arrive par l'expérience. Elle arrive même très souvent par l'expérience.
Question là-bas.
Moi, comme votre personne aussi dans la salle, je me pose des questions par rapport à ce plaidoyer vers le chercheur qui va se dire semaine.
Le chercheur comment ?
Le chercheur qui ?
Le chercheur qui va se dire semaine, qui va avoir des rapprochements trop près de la pratique ou du monde réel. Et je me pose la question parce que je me demande si on va pas un peu trop vite et si vraiment ce plaidoyer s'applique à tout sujet confondu et à toute façon finalement de se rapprocher de la pratique. Je pense que la plupart des gens autour de la table sont confortables, moi aussi, et bien sûr, avec un chercheur en sciences sociales qui publie un article dans ce journal ou qui participe à un débat public en faisant un article professionnel. Bon. De toute façon, s'il se trompe, c'est pas si grave. Quelqu'un nous rappelait tantôt qu'il va se corriger quelques minutes plus tard, puis personne ne va s'apercevoir. Par contre, je peux imaginer que la plupart des gens autour dans la salle serait beaucoup moins confortable si, par exemple, le chercheur en pharmaceutique ou en pharmacologie commence à avoir des rapprochements trop près, par exemple, certaines compagnies pharmaceutiques, de la pratique, il faut le dire aussi. Donc je pense, j'utilise cet exemple pour alimenter la question, parce que je pense qu'il faut nuancer ce type de rapprochement, comme d'autres personnes l'ont dit, il faut nuancer ce type de rapprochement, il faut nuancer aussi dans quel type de sujet, dans quel type de discipline on le veut et dans quel autre on le veut moins ou dans lequel on est moins confortable.
Ouais.
Veux-tu commencer ou...
C'est-à-dire que je fais la remarque suivante, c'est-à-dire que le chercheur qui fait des études en pharmacologie, jusqu'à un certain point, son sujet est... Je crois pas qu'il y a... Est-ce que la pharmacologie théorique, disons, qui est une recherche, je ne sais absolument pas le domaine. Jusqu'à un certain point, les recherches des pharmacologues sont déjà, par définition, appliquées. Hein, donc, là, la question est de savoir comment choisir le mode de l'application plutôt que de savoir si on va appliquer ou non. Le philosophe, lui, a le choix. Le philosophe peut travailler au niveau du pur principe, peut travailler sur Spinoza Malebranche, et il a le choix. Donc quand on est dans une discipline appliquée par définition, mais il y a différentes manières de s'impliquer. Hein. Il y a un type dont je vous recommande la lecture du dernier livre, Pharmageddon. Qui s'appelle David Healy, qui est un chercheur en pharmacologie, qui est, je crois, maintenant à l'Université de Toronto, qui a décidé de s'impliquer justement en décriant l'emprise que l'industrie a sur les recherches. et sur le développement de produits. Donc lui, c'est un type qui a une intervention, et lui, disons, nous, je ne sais pas si c'est de la petite bière, parce qu'il n'y a pas des gros sous hein, associés à ce qu'on dit. Ultimement, là, quoique si on commence à critiquer la corruption à Montréal, peut-être que là, on aura des... Lui, ce type-là, a reçu des menaces, a eu des sanctions disciplinaires de ces institutions, du fait qu'il s'est frotté contre des intérêts, là, qui sont beaucoup plus conséquents que cela. Donc, même le pharmacologue... Enfin, je m'exprime mal, mais il y a des disciplines qui sont par définition appliquées, ce qui ne veut pas dire que l'application soit nécessairement dans le sens là de aller droit vers des compromis inacceptables comme ceux vers lesquels peut-être qu'on serait tenté d'aller si on était dans ces domaines.
Moi, je répondrai en deux temps. Le premier, c'est une question toute simple, c'est à partir du moment où vous avez un contrat de recherche, mais que celui-ci est largement subventionné, par exemple par une instance privée, pour reprendre celui de la recherche pharmaceutique, mais il y aurait, c'est un exemple facile, il y en aurait beaucoup d'autres. D'accord ? Là, effectivement, se pose la question de savoir si, disons, nous n'allons pas mettre une recherche soi-disant objective, d'accord, ou un travail soi-disant objectif, au service d'une finalité particulière. Et les compétences qui seraient les nôtres, ce serait de réussir à dire n'importe quoi, mais à le faire de façon telle que ça paraisse présentable, que ça paraisse acceptable. Et alors, nous pourrions devenir des instances, disons, de facilitation. C'est-à-dire, nous allons tout simplement servir à présenter, ou à donner une certaine caution morale, ou une caution intellectuelle, à ce qui, autrement, en serait dépourvu. Mais ça se vérifie aussi lorsque, par exemple, certains types d'engagements, dont ceux dont je parlais tout à l'heure, pourraient conduire à l'idée selon laquelle un intellectuel ou un universitaire va se restreindre de dire certaines choses parce qu'il est dans une perspective d'intérêt, mais là, d'intérêt collectif. C'est-à-dire, autrement dit, il va se restreindre d'avoir un discours critique par rapport à cela même à l'égard de quoi il est engagé. Et en un certain sens, la différence entre, disons, l'intérêt particulier, c'est-à-dire financier, c'est-à-dire le fait d'être, par exemple, au service d'une entreprise, ou le fait, là ça ne va pas peut-être paraître choquant, mais d'être au service d'une cause, peut conduire à un même type de conséquences négatives, c'est-à-dire l'impossibilité, justement, de la falsifiabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de présenter de manière plus subtile, avec une perspective peut-être un peu plus, disons, complexe, mais plus subtile, quelque chose qui, en dernière instance, n'est que du dogme. C'est-à-dire quelque chose qui est une opinion fermée, quelque chose qui ne permet pas, disons, de modifier l'ordre des échanges, mais qui est véritablement fait pour gagner. Je pense que, même dans une perspective, disons, d'engagement public, d'accord, à partir du moment où on pense uniquement en termes de ce que le but du discours, c'est de gagner, alors il n'y a plus la possibilité d'un véritable travail philosophique en tant que tel, parce qu'on perd cet élément, disons, de ce que j'ai appelé de falsifiabilité et de possibilité d'un exercice délibératif en tant que tel. Et ça peut paraître très distinct, c'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, je ne sais pas moi, un universitaire serait au service d'une entreprise privée ou au service d'une cause publique, mais dans les deux cas, il pourrait se faire que graduellement, un individu ou un universitaire perdent justement cette ouverture ou cette possibilité donc de la délibération, et alors effectivement il y a un détournement d'une institution, c'est-à-dire celle du métier qui est le nôtre.
Je sens que je sens la fin presque dans l'audience. Alors je propose, j'ai encore deux la fin FIM. On a encore deux questions. Je propose qu'on les groupe et qu'on donne le droit de réponse à nos panélistes. Alors, allez-y.
Depuis le début, on semble définir, ou en tout cas, c'est les exemples qu'on donne, l'expression de se salir les mains par un investissement dans un monde public qui semble séparer un peu l'université. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se salir les mains à même l'université, la concernant? Et en ce sens-là, on a parlé du créum comme d'une courroie de transmission, d'une force critique par rapport à la société et aux institutions qui sont extérieures. Mais est-ce que le créum est une courroie de transmission, une force critique réflexive de l'université à l'égard d'elle-même? Et à cet égard-là, est-ce qu'elle se salit les mains? Devrait-elle le faire plus? Quel est son avenir par rapport à cette question?
Je prends la deuxième question tout de suite. Et puis,
Sur la question de se salir les mains, ça a été très sans figurer. On parle de se salir les mains en prenant la parole, sans saleté véritable. Je sais que personnellement, ma question philosophique est chargée par les souvenirs que j'ai de transporter des billets au bois avec mon père sur sa terre à bois et d'avoir été serveur au 5 à 7 de droit. Donner du vin à des gens qui vont faire beaucoup plus d'argent que moi plus tard. Mais bref, cette espèce de salissage de main littérale-là, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce qu'on pourrait le mobiliser dans nos réflexions philosophiques et éthiques sur la politique? Et est-ce que se salir les mains en ce sens-là pourrait ajouter une valeur à nos réflexions? Ou du moins la donner une valeur différente dans nos réflexions éthiques sur l'égalité, sur la justice?
Je peux commencer, si tu
veux. Oui, je veux dire, par rapport à votre question, je pense que c'est fondamental, je pense que c'est essentiel, il faut qu'on y aille. Je crois que. Je disais qu'il faut que nous parlions fort lorsqu'il y a péril dans la demeure, lorsque nos institutions démocratiques sont menacées par des politiciens qui ne croient pas autant à la démocratie qu'ils ne le devraient, étant des. En fait, politiciens démocratiquement élus, sans nommer personne en particulier. Mais je crois qu'il y a péril dans la demeure universitaire au Québec et au Canada à l'heure actuelle. Et je pense que nous devons le décrire. Et c'est quand j'ai dit au tout début de mes remarques que ça n'a peut-être pas été... Je pense que le CREAM a été créé à un moment... Si ça avait été attendu 2 ans plus tard, il n'y aurait pas eu de CREAM. Hein, il y a eu comme une sorte de moment où, peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'argent, quand il y avait beaucoup d'argent, on peut faire de l'éthique, hein, parce que tout le reste aura été fait. Quand il y a beaucoup d'argent, on peut faire de l'éthique. Quand il y a moins d'argent, là, il faut faire des choix, puis c'est sûr que les choix qu'on fait sont des choix qui sont dictés par des considérations qui sont parfois, disons, extra-académiques. Je pense que nous devons faire un travail critique sur le mode de gestion. Moi, mon espoir, disons, que c'est la fatigue, là, j'ai du mal à... J'espère que les énergies qui ont été décuplées pendant les manifestations étudiantes du printemps dernier... Moi, j'ai été très frustré par le fait que très souvent, dans le débat public, et peut-être que ça cachait des choses qui se passaient sur le terrain, on est parlé beaucoup des questions de frais de scolarité et moins des questions de gouvernance universitaire. Tout est là-dedans. Je le dirais, là, je suis à l'Université de Montréal, je ne suis plus employé par elle, donc j'ai peut-être on s'est fait passer un... Dans la dernière caution rectorale, là, c'est quelque chose. Et c'est pas pour nommer l'individu qui a été choisi, c'est le processus. On a passé des mois et des mois et des mois à faire des processus consultatifs qui semblaient indiquer que le corps professoral avait certaines préférences et certaines dépréférences, là, certaines préférences négatives. Et dans un après-midi, le conseil d'administration a décidé qu'il en serait autrement. Certains d'entre nous fait une fronde, écrit une lettre pour dénoncer cela, mais là on se frotte à des intérêts qui sont il y a des intérêts très 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 puissants qui veulent que l'université soit telle qu'elle est, qu'elle soit gouvernée par les intérêts qui la gouvernent actuellement et que les gens qui la dirigent soient en quelque sorte les reflets de cela. Et donc je dis ça à propos de l'Université de Montréal parce que je l'ai vécu un peu de l'intérieur et j'étais très fâché par ce qui s'est passé. Je suis passé de l'autre côté de la montagne. La seule chose qui est différente, c'est que les espèces de phare là, démocratique qui nous donne à penser qu'il y a consultation alors qu'il n'y en a pas vraiment, parce qu'en fait, ce processus s'est produit 2 fois. Là, c'est 2 fois de suite que la volonté des chercheurs et des professeurs est mise de côté par le conseil d'administration. Je pense que c'est très, très grave. Je pense que c'est très, très grave. Et alors, je parlais du fait que... ça prend du courage parfois pour prendre des positions qui sont impopulaires. Moi, je me fais parfois écrire des lettres un peu méchantes là, par des gens qui n'aiment pas les prises de position que je prends sur certaines questions, mais ça s'arrête un peu là. prendre des positions à l'intérieur de l'institution, là, mordre la main qui nous nourrit, là, c'est autrement plus... ça prend autant de courage. Mais je crois qu'il y a véritablement péril dans la demeure, dans les universités, et que c'est peut-être une des choses. Peut-être que le premier geste, tiens, je lance l'invitation à ma collègue, le premier geste de collaboration que nous pourrions avoir entre la chaire que je dirige à McGill et celle-ci, c'est de faire quelque chose sur où en sommes-nous dans la gouvernance universitaire. Réfléchissons à... Et il faudrait, je crois, que ce qui se pointe à l'horizon, c'est-à-dire une consultation sur le financement des universités, soit également une consultation sur la gouvernance des universités. Parce que, bon, si on gagne la bataille sur 1000 piastres, mais qu'au fond, tout le reste, hein, l'infrastructure reste telle qu'elle est, on n'aura rien gagné du tout. J'ai rien dit à Frédéric parce que... mais je crois que... Moi, si je travaille sur les questions sur lesquelles je travaille, ou c'est parce que je viens de quelque part. Hein, je viens de j'ai toujours un peu eu le regard d'un minoritaire sur une société où je voyais peut-être plus rapidement que d'autres ce que j'appelle ou ce qu'on appelait à une certaine époque les réflexes majoritaires. Hein, et ça m'a amené à travailler sur les questions sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a un très beau chapitre, et peut-être que je m'arrêterai tout simplement en vous référant à ce chapitre, dans le livre de Jerry Cohen, un grand chercheur montréalais, récemment défunt, comme vous le savez, qui se pose la question suivante. Il a été élevé dans une famille gauchiste, juive, à Montréal, dans le milieu syndical, et il s'est retrouvé à défendre des positions de gauchiste, etc. Et dans quelle mesure, se pose-t-il la question, dans quelle mesure devrait-il être en quelque sorte inquiété du fait que, de l'extérieur, on pourrait voir toute sa carrière académique comme une sorte de massif billet de confirmation. Hein. La réflexion se termine en queue de poisson, il n'y répond pas vraiment, mais moi j'ai tendance à m'approprier ce questionnement de la manière suivante. On n'est pas des esprits purs planant au-dessus de la réalité. Le fait que certaines questions nous accrochent alors que d'autres accrochent d'autres vient de, en quelque sorte de qui nous sommes.
Moi, très brièvement, j'ai commencé avec la question de Frédéric. Je pense que c'est essentiel à la condition de ne pas être dupe de nos expériences, c'est-à-dire de nos rapports à ces expériences. Comme tu disais, par exemple, je ne sais pas moi, des relations avec disons, soit notre passé ou avec des proches qui ont une réalité toute différente des nôtres. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Et ce qui m'énerve particulièrement, c'est lorsque je vois des intellectuels ou des universitaires prétendre avoir quelque chose à dire sur le milieu ouvrier, en s'identifiant à eux, mais ensuite en pouvant retourner chez eux et en étant dans toute quiétude, c'est-à-dire en n'ayant pas de soucis s'ils vont être en mesure de payer le loyer, le prochain loyer. Donc ça, c'est à partir du moment où il y a ce souci dont tu parles, qui se vérifie pas simplement par les expériences que tu donnes, ça peut être d'autres types d'expériences. Toujours garder en tête que cela nourrit la réflexion, mais que on peut pas autoriser une biographie personnelle par une simple projection des expériences d'autrui. C'est la manière dont je le... Sinon, ça devient une forme d'usurpation sous prétexte d'accorder une certaine légitimité à... disons, à un propos. Et ça m'apparaît très, très dangereux. Pour ce qui est de la réflexion sur l'université, bon, j'imagine que tu connais mes positions, donc je suis tout à fait d'accord. Je pense néanmoins que ça se fait à condition d'investir à différents niveaux, disons, de la réflexion publique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et à l'intérieur, parfois, cela suppose effectivement de faire partie de comités de travail dont on sait très bien que les résultats escomptés ne seront pas ceux que nous aurions pu souhaiter. Enfin, je ne donnerai pas d'exemple. Mais, disons, cela suppose parfois d'accepter un certain type de décision en espérant que, disons, les effets du travail collectif seront les moins, disons, les moins nocifs possibles. Donc parfois les espoirs sont très 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 faibles. D'accord ? Mais ça suppose aussi qu'à chaque fois, même dans un travail qui n'est pas, disons, un travail à proprement parler de, disons, de philosophie morale, mais qui est inspiré par la philosophie morale ou la philosophie politique, toujours ayant en tête cette ouverture dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le but n'est pas simplement de gagner, le but est de faire en sorte que l'institution se trouve meilleure. Et il arrive que notre représentation d'une institution au moment où on s'y investit et les finalités poursuivies par ce que l'on cherche lorsqu'on s'investit dans une institution se voient corrigées précisément par le travail avec autrui. C'est-à-dire il arrive que dans certaines situations, notre représentation de notre finalité n'est plus du tout celle de remporter un point ou de gagner, mais tout simplement de participer à un effort de travail collectif afin de renforcer l'institution, afin de faire en sorte que celle-ci ne soit plus détournée par des intérêts particuliers. C'est la manière dont je le vois. Le grand danger, c'est lorsqu'on investit quelque chose en ayant uniquement en tête de gagner. Là, à partir de ce moment-là, nous nous conduisons exactement comme ceux qui détournent les institutions de leur fin, c'est-à-dire nous ne considérons pas le caractère public d'une institution qui, précisément, par ce caractère public, suppose une forme d'ouverture pour la délibération.
Voilà. Je vous quitterai avec l'observation suivante. Alors Daniel nous lançait sur cette image de la tour d'ivoire qui est en danger de perdre sa prise sur la réalité. Et dans la discussion par la suite, j'ai l'impression qu'on a surtout parlé d'un changement de chapeau des éthiciens, des philosophes qui, soit de manière permanente, quand on voit dans la politique, soit de manière ponctuelle, si on siège sur des commissions, etc., changent de chapeau. Hein? Mais on n'a pas exploré plus cette idée de modifier les véhicules de recherche qui sont les nôtres quand nous faisons le travail d'éthicien.
Le créum en est un.
Alors, le créum en est un, mais nous aussi, on peut constamment penser à les modifier, comme l'a suggéré Martin. Nous avons maintenant notre déjeuner ici. L'après-midi, à partir de 2h, se passera dans la salle 422 au département de philosophie. Je vous prie de remercier avec moi nos deux panélistes.